Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour votre rendez-vous mensuel avec Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Monseigneur Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Alors Monseigneur, en ce début du mois de mars, nous entrons dans le carême par la célébration du mercredi des cendres. Que signifie pour vous cette célébration? Et même d'une manière générale.
Les cendres, c'est ce qui reste quand le bois s'est consumé.
Oui.
Il était peut-être un très beau pommier, mais il est devenu des cendres. Et puis, selon la tradition, c'était « Souviens-toi que tu es poussière ». C'est pas que l'être humain n'a pas de dignité, mais il y a beaucoup de choses dans notre vie qui tombent vite en poussière. Et quelque part, nous demandons en même temps au Seigneur, en recevant ses cendres, qu'il touche notre cœur. Et c'est peut-être ça le plus important, parce que c'est notre cœur qui doit changer. En même temps, nous savons bien que dans notre vie, il y a beaucoup de gâchis. Pas seulement au niveau de la nourriture, au niveau des choses, au niveau de notre temps. Alors ça serait peut-être intéressant à ce moment-là de se dire, ben oui, c'est peut-être le temps d'aller à l'essentiel. D'où nous allons prendre des résolutions, résolutions de carême comme on les appelle.
Oui, donc finalement cette notion de cendre, c'est une notion aussi d'humilité, vous l'avez dit, hein, se tourner vers l'humilité et vers l'essentiel.
Alors, c'est toujours aller à ce qui fait de l'essentiel dans notre vie, mais aussi dans notre foi. Il y a un certain nombre de rites, bien sûr, mais est-ce que nous sommes tournés vers Dieu? Est-ce que nous sommes tournés vers le Christ? Voyez, c'est un temps que nous allons prendre pour renouer des liens avec le Seigneur, avec Dieu, avec le Christ, mais aussi avec les autres. Ça va être aussi le temps du sacrement de la réconciliation, par exemple. Vous voyez, on va regarder sa vie non seulement dans son rapport à l'avoir, au pouvoir, au croire, mais aussi dans notre vie relationnelle. Et là, je dirais, c'est peut-être l'occasion aussi de retisser des liens, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres, et nous allons voir que nous sommes invités à nous tourner vers les plus pauvres. C'est le sens un peu du partage.
Le partage.
Donc c'est toute cette dimension que nous sommes invités à retrouver.
Alors, vous l'avez dit, hein, justement, c'est une notion très importante, celle de prendre le temps. Vous intitulez l'éditorial du mois de mars de la revue Église de Bayeux et Lisieux en mettant ce thème « Le carême ou la grâce du courage ». Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire en soulignant la grâce du courage?
Saint Luc, dans son évangile, dit que Jésus prit la route de Jérusalem, oui. Là où il va mourir, hein, là où il va être confronté à ses adversaires, ses ennemis, avec courage. Je pense que c'est une grâce qu'on a demandée, le courage d'être chrétien dans une période catholique en particulier où nous connaissons un petit peu tout ce qui se passe, un peu de douloureux, de oui. Tragique même dans notre Église qui nous fait un peu honte. Mais en même temps, il y a le courage de la foi, tenir bon dans la foi. Vous voyez, Jésus dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Il y a d'abord ce courage de quitter un peu nos sécurités. On s'habitue, il y a nos sécurités matérielles, bien sûr, mais il y a aussi des sécurités spirituelles. C'est l'occasion de reprendre le courage de la prière, par exemple, de dire le matin, ben, je prends quelques minutes de prière, alors que je me contentais de prier au volant de ma voiture. Ben là, je vais prendre un temps gratuit pour Dieu avant de partir, peut-être me lever 10 minutes un peu plus tôt pour que le Seigneur ait toute sa place. Il faut du courage pour prier parce que Jésus ne dit oui. Pas quand tu as envie de prier, mais quand tu veux. C'est du domaine de la volonté. Voyez. Donc le courage aussi de la prière. Puis il y a le courage pour partager ou renoncer aussi au gâchis. On achète trop de choses au superflu. On peut retrouver l'essentiel, la simplicité, c'est pas de vivre dans le dénuement absolu, mais je pense que durant ce temps de carême, on peut renoncer à s'acheter tel ou tel vêtement, tel ou tel objet ou telle marque, et puis donner cet argent plutôt à ceux qui n'ont rien partagé. Ça, c'est aussi une dimension importante, parce que le partage, c'est pas d'abord ce que l'on donne, c'est ce qui reste quand on a donné. Il y en a qui semblent donner beaucoup, parce qu'ils ont donné 1000 euros, mais il leur reste plusieurs millions, donc ils n'ont pas partagé grand-chose. Il y en a, par contre, qui vont donner 10 euros, mais ils ont à peine 1000 euros pour vivre. Vous voyez, c'est toujours cela qu'il faut se... J'ai partagé, oui, mais qu'est-ce qui me reste ? Donc, quelque part, ça vaut la peine de se poser cette question pour qu'il y ait un véritable partage et voir le superflu qu'il y a dans notre vie.
Du 23 février au 3 mars a eu lieu le Salon de l'agriculture à Paris. Alors, vous n'y êtes pas allé cette année comme l'année dernière, mais c'est un monde quand même que vous connaissez bien. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce monde agricole, ces agriculteurs ?
Les agriculteurs, enfin les cultivateurs, sont aimés dans notre pays. Hein. Oui. Nous avons quand même un territoire rural. Hein, le paysan, qu'on disait dans les années 1930, c'est celui qui a façonné un paysage. Et quand on survole la France, c'est un pays bien sûr industriel, il y a des grandes villes, mais l'espace rural est important. Les églises dans chacune des communes, on voit bien que ce monde rural et ce monde agricole en particulier a façonné la mentalité et aussi le paysage de la France. En même temps, le rural ne dit pas forcément agriculteur, mais c'est vrai que quand des prairies sont en jachère, quand des terres cultivables tombent en jachère, qu'est-ce que c'est douloureux ? Or, il y a des régions en France où il y a maintenant des jachères.
Et d'autres où l'on manque de terres agricoles.
Et d'autres où l'on manque de terres agricoles, tout à fait. Donc, vous voyez les enjeux qu'il y a. Or, sans agriculteurs, sans cultivateurs, l'agriculteur, c'est aussi l'éleveur, sûr. Et sans eux, notre pays ne serait pas ce qu'il est. Et en même temps, ils nous permettent de nous nourrir. Ils façonnent non seulement notre paysage, mais ils donnent aussi, bien au-delà de notre pays, la nourriture dont les gens ont besoin, à travers que ce soit les céréales, que ce soit le lait et bien d'autres. Et en même temps, on sait que leur vie, elle est difficile. C'est une profession qui est en grande souffrance, en particulier tous ceux qui sont éleveurs, et en tout cas qui produisent le lait. Nous savons aussi que les betteraviers...
Exactement, j'ai voulu dire avec la fermeture de la sucrerie
à Cagny. C'est très douloureux, j'ai rencontré des personnes qui y travaillent et elles sont dans la plus grande désespérance.
Et alors justement, qu'est-ce que l'Église peut porter comme message vis-à-vis de...
D'abord, la solidarité entre les personnes. Et voilà, je connais une personne qui est secrétaire, elle risque d'être au chômage, donc aider aussi ces personnes parfois à retrouver un travail, en sachant qu'il y a beaucoup de travailleurs temporaires. C'est l'hiver, c'est du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Donc, ces personnes qui avaient là un travail durant l'hiver, qui travaillaient peut-être durant l'été ailleurs, vont se retrouver au chômage. Donc, il y a à la fois un soutien moral, il y a une préoccupation aussi au niveau des familles. Je pense que la paroisse, par exemple, est très présente. Crenteville, même le monastère, va prier pour toutes ces personnes. Donc, vous sentez bien que là aussi, il y a des enjeux énormes. Et les betteraves qui vont faire plus de 100 kilomètres pour rejoindre une autre usine, ben ça va coûter. Donc, le prix de revient va être plus cher. Donc, vous sentez bien que il y a des enjeux énormes. Et c'est vrai que avec la PAC au niveau de l'Europe, beaucoup d'agriculteurs qui font du bio, par exemple, sont très inquiets. Ils ne touchent pas les aides qu'ils attendent. Donc, il y a des situations familiales aujourd'hui qui sont difficiles à gérer et en tout cas très angoissantes.
Et donc, effectivement, c'est aussi du rôle de l'Église d'être présente, être à l'écoute de ces personnes.
Nous avons eu des rencontres là, et tout un groupe de chrétiens avec des prêtres, des diacres, dans le diocèse vient de se mettre en place pour être à l'écoute des réalités de ce monde rural et en particulier du monde agricole.
L'actu du diocèse sur RCF avec Mgr Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, au micro d'Alexandre Barbet.
Du 20 au 28 mars, Mgr, vous accompagnez un pèlerinage diocésain en Terre Sainte. Or, ça c'est formidable, ça c'est un très beau pèlerinage.
Oui, tout à fait, oui.
Qu'est-ce que ça représente pour vous,
ce pèlerinage en Terre Sainte, parce que
c'est formidable.
Un moment unique, enfin, je dirais, quand on est là, en Terre Sainte, on va être d'abord en Jordanie.
Oui.
Ensuite, on traversera la Palestine à Bethléem, et puis on arrivera en Israël, bien sûr. Bien être là où, sur les pas de Jésus, là où aussi est Moïse, a vu cette terre promise, il a conduit son peuple, hein, sur le mont Nebo, en Jordanie. C'est toujours un moment exceptionnel, enfin, au niveau spirituel, je parle. Hein, pas seulement au niveau des paysages.
Oui.
En même temps, c'est un temps fort spirituel avec une cinquantaine de pèlerins de notre diocèse. Je dirais, même si c'est vrai que c'est lourd, on a tellement de choses à faire qu'on va mettre plus ou moins entre parenthèses, mais qu'il faudra vite retrouver au retour, avec une surcharge, bien sûr. Mais c'est, pour un évêque, c'est indispensable d'être au milieu de ces pèlerins. Et d'être avec son peuple. Et là, c'est un temps privilégié où, je dirais, on vit une amitié très, très simple. Enfin, on partage tout simplement, on prie ensemble. on marche ensemble, on s'écoute les uns les autres, on rit aussi ensemble. On est heureux de se retrouver et véritablement je dis merci au service diocésain des pèlerinages d'avoir organisé ce pèlerinage. Et puis aussi on va découvrir tout un peuple, hein. On va voir les conflits dont ce peuple vit, hein, dans la souffrance. En Jordanie, ben c'est bien sûr les conséquences de la tragédie qui se passe en Syrie,
oui. Hein,
le nombre de personnes qui sont déplacées, hein, il y a aussi des Kurdes, etc. Et puis bien sûr en Israël, la place des Palestiniens, Bethléem, ben je veux dire la Palestine elle-même, hein,
et
avec ses grandes difficultés au niveau économique. Enfin, on sent bien toutes les tensions, hein, qu'il peut y avoir au niveau politique et puis aussi la fragilité de la paix dans cette région.
Alors justement, vous le dites, c'est vraiment l'occasion de rencontrer la population locale aussi, de discuter avec les personnes qui vivent sur cette terre. Selon vous, justement, est-ce qu'une solution est possible pour vivre en paix sur ce lieu, sur cette terre, malgré le conflit qu'on connaît depuis des dizaines d'années?
Il y a une aspiration de tous les côtés, aussi bien en Jordanie, en Palestine, en Israël. Il y a des gens de bonne volonté. Ce sont des problèmes politiques. Et puis, il y a aussi des extrémismes, aussi bien en Palestine que dans le peuple juif. Et là, c'est dramatique parce que ce sont ces extrémistes qui provoquent, au fond, cette absence de négociation,
de dialogue,
et de paix et de dialogue. Alors que la population dans son ensemble aspire, comme tout le monde, à vivre en paix et à pouvoir travailler et à élever ses enfants et dans le respect des uns et des autres. Il y a possibilité. On rencontre beaucoup de personnes qui veulent vivre dans un climat de paix, et puis entre Arabes et Juifs. Donc là aussi, on est victime, je dirais, de l'islamisation d'un côté et de l'extrémisme religieux dans le monde juif aujourd'hui.
Bon, en tout cas, on vous souhaite à vous et aux pèlerins du diocèse un très bon pèlerinage donc du 20 au 28 mars. Bien évidemment, ce pèlerinage est complet depuis longtemps, mais pour les auditeurs qui seraient intéressés pour suivre un tel pèlerinage, un autre pèlerinage donc en Terre Sainte est proposé du 22 au 30 octobre 2019 avec le père François Pavie. Donc là, vous pourrez vous renseigner auprès du service diocésain des pèlerinages en téléphonant à la maison diocésaine au 02 31 29 35 00. Vous aurez toutes les coordonnées au standard de RCF, bien évidemment. Du 24 au 31 mars, notre diocèse accueillera pour la première fois un reliquaire de Sainte Bernadette Soubirous, Bernadette de Lourdes. Alors, Monseigneur, ça c'est un événement important, ça aussi, pour le diocèse. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette venue du reliquaire de Sainte Bernadette?
Ben, vous avez raison, hein, c'est un événement très important pour toute la Normandie.
Je
sais déjà que dans le diocèse d'Évreux,
ce sera pas uniquement dans notre
les
diocèse,
foules se précipitent. Hein. J'espère qu'ici, dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, ça sera la même chose. Bon, j'ai une grande vénération pour la petite Bernadette. Hein, je vais à Lourdes depuis plus de 40 ans presque.
Oui,
j'ai emmené des milliers de jeunes.
voilà, alors donc vous allez à Lourdes. Effectivement, il y a les pèlerinages diocésains à Lourdes.
Oui.
Mais là, c'est l'inverse. C'est Bernadette qui vient chez nous.
Je l'ai souhaité, bien sûr. J'ai favorisé cette venue avec l'hospitalité. Je crois que beaucoup de personnes connaissent la petite Bernadette. C'est une figure de l'Église extraordinaire, comme la petite Thérèse.
Bien qu'elle ne se soit pas connue, puisque...
Oui, tout à fait.
Elles n'ont pas vécu tout à fait à la même époque.
Tout à fait. Hein. Mais je dirais que là aussi, 1858, quand il y a les apparitions, il faut se rappeler que ce sont le mariage des parents de Thérèse,
en
même temps.
Oui.
Donc vous voyez, il y a quand même quelques liens. Et ensuite...
Zélie Martin était allée à Lourdes aussi.
Et Zélie avance de mourir quelques semaines après, hein, est allée pour la dernière fois de sa vie à Lourdes, priant Bernadette de la guérir. Malheureusement, elle n'a pas été guérie. En même temps, Bernadette dit toujours que le plus grand des miracles, Ce n'est pas qu'un boiteux se mette à marcher, il y a des guérisons.
C'est la conversion.
Mais c'est un cœur qui se transforme.
Oui.
C'est très beau cela. Et personnellement, je peux dire que Lourdes a été pour moi une terre de grâce où j'ai vu beaucoup de cœurs se transformer. Des réconciliations dans les familles, des personnes s'ouvrir à la foi, à la Vierge Marie. Et c'est vraiment une terre de grâce et grâce à Bernadette. Donc elle va venir chez nous et j'espère que nos auditeurs en profiteront pour la prier, pour leur confier les intentions et puis aussi pour l'accueillir, dire notre joie qu'elle vienne dans notre diocèse. Voilà ce que je souhaite pour les uns et les autres.
Alors, ce reliquaire ira visiter différents lieux du diocèse,
oui.
Dont Lisieux, bien évidemment. Alors ça, pour nos auditeurs, vous allez pouvoir retrouver tous les lieux dans lesquels le reliquaire sera présent durant cette semaine sur le site internet du diocèse de Bayeux et Lisieux. Mais il y a une question derrière ça aussi. Qu'est-ce que ça signifie de prier avec les reliques d'un saint ou d'une sainte? Parce qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose de démodé, de dépassé.
Il faut aller au-delà des éléments, je veux dire, corporels.
Des éléments humains.
C'est une présence. Hein, et la présence, mais on a besoin de manifester parfois par des choses concrètes.
Oui.
Hein, je dirais la présence de quelqu'un. Pourquoi les gens vont sur les tombes, là où il y a un cercueil? Ils viennent pas vénérer des os, c'est sûr. Ils viennent vénérer la présence d'un être cher. Donc quelque part, c'est pas ce qu'il y a dans le reliquaire qui compte, mais c'est le signe de la présence de Bernadette. Voilà. Et on a besoin parfois d'un élément physique, mais c'est pas ça qui est le plus important. Hein, c'est sa présence humaine et spirituelle.
Et on le voit effectivement avec Bernadette, on le voit très bien, on le connaît très bien, en tout cas dans notre diocèse aussi, avec les différents reliquaires de Thérèse ou des parents de Louis et Zélie Martin, qui voyagent à travers la France et à travers le monde aussi. Cette année, Monseigneur, plusieurs lieux proposent de participer aux 24 heures pour Dieu du vendredi 29 au samedi 30 mars. Alors on aura donc des animations, différents rendez-vous de proposer à Dozulé, à Douvres-la-Délivrande, à Caen, à Lisieux. L'intention du pape François était de remettre en valeur au départ le sacrement de la réconciliation, mais aujourd'hui cela va plus loin, on le voit à travers les rendez-vous qui nous sont proposés. Mais je voulais déjà revenir avec vous sur ce sacrement de la réconciliation. Pourquoi a-t-il une mauvaise image ?
Je crois qu'il a une mauvaise image dans l'opinion publique et puis une certaine génération des personnes qui ont aujourd'hui 80 ans, peut-être un peu moins, mon âge, mais pour les jeunes générations, il n'a absolument pas cet aspect. Et de moins en moins, je dirais, parce que les gens qui viennent, ils viennent pas aligner une liste de péchés, ils parlent de leur vie. Ils parlent de ce qui est dur à vivre et ils veulent se confier au Seigneur, ils demandent pardon aussi, de pas vivre ce chemin de sainteté à laquelle on est tous appelés et de ne pas vivre selon l'Évangile, hein, ça c'est important. Mais c'est souvent le temps d'un dialogue et les gens veulent prendre parfois du temps pour parler de telle ou telle situation qu'ils vivent, hein, des conseils aussi. Donc il n'a plus cet aspect, si vous voulez, un petit peu caricatural qu'on donne à la confession. Hein. Alors l'intention du pape aussi, c'est de faire une démarche un peu devant le Seigneur, hein, de se reconnaître pécheur, c'est-à-dire que c'est bon de revoir un peu des éléments de sa vie. Comme on le faisait tout à l'heure à l'entrée du carême, et de dire que par rapport aux objectifs qu'on voulait vivre, hein, ça peut être dans la prière, ça peut être dans le partage, ça peut être dans la vie de famille, ça peut être dans le don de soi, on fait le point, et en même temps, on a besoin de s'entendre dire « vous êtes pardonné ». C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Il y a une joie profonde d'entendre cette parole, et on peut pas se pardonner soi-même. Faut être honnête.
Non. Hein.
Et puis dire, moi je m'adresse dimanche, je voudrais bien savoir s'il a une réponse de Dieu. Hein. Donc Dieu se sert des êtres humains qui sont exactement du même gabarit que ceux qui se confessent. Le prêtre n'est pas meilleur, l'évêque n'est pas meilleur. Ils ont aussi besoin de se confesser. Et donc c'est une démarche, moi, pour moi, qui est très importante aujourd'hui. Et c'est le plus beau cadeau que nous vivons avec des jeunes où eux ne se posent absolument pas ces mêmes questions et viennent avec joie. Il y en a qui sourient, etc., mais qui veulent parler de leur vie tout simplement et qui demandent pardon à Jésus.
Alors, durant ces 24 heures pour Dieu, il n'y aura pas uniquement le sacrement de la réconciliation qui sera proposé, il y aura aussi différentes animations, des temps de prière, des temps d'enseignement, et sur Caen, alors sur Douvres, il y a une veillée spéciale pour les jeunes, et puis sur Caen aussi, le vendredi soir et le samedi, il y aura des témoignages et des jeunes proposent même de faire une sorte d'évangélisation de rue. Que pensez-vous de ce type d'initiative?
Alors ça, c'est particulier pour les jeunes. Je crois que les adultes, ils sourient un peu. Enfin, soyons honnêtes, l'évangélisation de rue, il y en a qui jouent de la guitare, ils vont chanter quelques chants religieux. Dynamique, bien sûr, hein. Et puis ils essaient
d'aller à la rencontre des gens,
telle ou telle personne, tel ou tel jeune, de dire qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent un peu de l'Église. Bon, je pense qu'ils vont avoir là, en cette période, plutôt des remarques plus que désobligeantes. Mais enfin, bon, ils osent aussi dire qu'ils sont chrétiens,
oui, oui.
Ils n'approuvent pas forcément ce qu'ils vivent dans l'Église. Heureusement, ils ont assez de liberté. On n'est pas forcément d'accord avec ce qui se vit. Mais enfin, ils appartiennent à l'Église, et l'Église, c'est une grande famille. Et comme dans toute famille, il y a aussi, malheureusement, des problèmes. Mais je dirais, on crache pas pour autant sur sa famille. Et les jeunes souffrent de voir que l'Église n'est pas si sainte qu'on voudrait la voir, si évangélique. Hein, et en même temps, ils osent témoigner qu'ils sont heureux d'être chrétiens.
Donc finalement, c'est un bon message d'espoir aussi pour l'Église et puis pour... pour les chrétiens que nous sommes. Eh bien, merci, Monseigneur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien avec Monseigneur Boulanger. Au revoir.